que tu veux te réchauffer les mains près du feu?
Ouais, je veux bien. Hein.
Là, on sent que la température baisse. Et toi, t'es dans l'autre bâtiment.
Hein. Ouais, de l'autre côté.
C'est aussi froid.
Ouais, il fait beaucoup froid ici. Hein.
C'est ça.
Les deux, parce qu'on a bien fait ça avec. C'était hier que c'était le plus dur, parce qu'on a dû ramener les planches du bricot en mode comme ça.
Hein, tranquille. Hein. Donc aujourd'hui, c'était un peu plus. Enfin, moins physique.
Ouais, c'était moins physique. C'est plus logistique, on va dire.
Okay. Voilà, une petite source de chaleur supplémentaire.
Merci.
Hop. Et alors, après, si tu veux goûter le gingembre frais.
Ah ouais.
Oui, on s'était vu le jour de la fabrication.
Peut-être que je vais enlever mes chaussures.
Oui, c'est ce que
ouais.
Je
veux. J'ai dit.
Après, je crois que je mettrai un tapis sous le lit pour réchauffer encore plus. L'espace. Voilà, et si tu veux te mettre sous la couette aussi, n'hésite pas.
Peut-être que je vais mettre le petit
lit. Le petit lit, très bien. Tu peux dérouler et tout. T'arrive de te poser comme ça sur ton lit avec un petit thé?
Ouais, tous les jours. Ça me permet de. C'est un peu le rituel avant de. Tu vois, quand tu rentres chez toi après une longue journée, t'es là, bon, tout est clean, j'ai fait à manger, j'ai tout rangé, je vais enfin pouvoir me mettre dans mon lit. Je prends mon petit thé, je mets ma petite série et je suis là. C'est réconfortant en fait. Mmh. J'aime bien boire quelque chose de. Bonjour, ouais.
Est-ce que tu as des rituels aussi le matin? Au réveil?
J'essaie de m'imposer des rituels. Enfin, déjà, me lever tôt, ça c'est important.
C'est quelle heure tôt?
Enfin, en tout cas, pas dépasser 9h. Enfin, pas dépasser 9h. Entre 8 et 9h, j'essaie de me lever. Et après, c'est descendre. Enfin, j'essaie de mettre un peu de temps pour faire du sport. Mais c'est vraiment un nouveau rituel que j'essaie de commencer. Mais j'arrive pas à le tenir tous les jours. Mais sinon, c'est vraiment juste me lever, voilà, aérer ma chambre. Et non, ça c'est plutôt le soir où j'allume quelque chose. Mais ouais, le matin c'est j'aère. Et je me dis, ah, je vois comment il fait dehors et ça va un peu faire la journée, quoi.
Et le soir, tu mets de l'encens parce que tu as fait un geste comme ça.
Ouais, j'aime bien quand il y a une odeur. Je suis aussi j'ai un peu sensible aux odeurs, donc quand tu as une odeur un peu, ça rajoute à ce côté, tu vois, où tu es dans le confort.
Réconfortant, ouais, apaisant.
Voilà, apaisant.
Le soir, tu te couches vers quelle heure?
Je me couche entre minuit et 1h du matin. Voire 2. Quand c'est... Ouais, quand je respecte rien. Ouais.
T'aimerais bien te coucher plus tôt?
Ouais, j'aimerais bien. Mais ça m'arrive quelquefois, mais parfois quand je suis trop dans mes pensées ou il y a un truc qui me taraude ou quoi, ben du coup j'essaye. Aussi ça aide pas parce que du coup je fume. Enfin parce que pour moi aussi ça fait partie de mon truc. Ah, je suis enfin chez moi, je vais me détendre. J'ai été productif aujourd'hui, je suis fière de moi, je vais pouvoir rien faire. Et puis, ouais, quand je suis dans trop, il y a eu trop de choses, ben, je suis là et je réfléchis, je cogite à des trucs, mais je crois que c'est quand il y a trop d'émotions que je dors mal, en fait. Et du coup, je dors tard et je suis là, je suis déséquilibrée.
Est-ce que tu as choisi ton lit?
Non, j'ai pas choisi. Enfin, c'est parce que... je sais pas si tu veux que je te raconte. Ouais, c'est parce que du coup, quand je suis partie de chez ma mère, ben, j'avais juste un lit simple. Et j'ai laissé mon lit... J'avais laissé mon lit là-bas, quoi. Et entre-temps, j'ai déménagé. Et j'ai toujours eu un matelas qui était déjà sur place. Et après, j'ai trouvé un matelas... Mais c'était un truc récupéré parce que je devais en avoir un et je l'ai pris, quoi. Et voilà. Mais sinon, non, j'ai pas choisi mon lit. Ça a toujours été donné ou emprunté.
Est-ce que t'as choisi la literie?
Non.
Les draps.
Ah oui. Enfin, non. Pas vraiment. Je dirais que j'ai peut-être un set. De drap que moi j'ai choisi, mais sinon le reste c'est parce que parfois je vais encore faire ma lessive chez ma mère, donc tous les draps qu'il y a chez elle et des trucs comme ça, je les prends de là, quoi. Mais une fois j'ai acheté des trucs.
Tu dors seule?
Principalement, oui. Mais j'aime bien dormir accompagnée, mais c'est pas encore.
Est-ce que c'est facile pour toi de faire venir quelqu'un dans ton lit?
Je dirais oui et non. Oui et non. Parce que ça dépend. Parce qu'il y a des personnes que tu rencontres et tu as directement un bon feeling. Du coup, tu te sens directement intime avec la personne. Et aussi, parfois, tu ramènes quelqu'un, tu l'invites dans ton lit parce que t'as un peu... t'es là en mode fin de soirée, voilà. Mais depuis, j'essaye quand même de que ce soit plutôt par le feeling qui se crée, que t'as envie. Mais il y a parfois aussi ces fois où il y a quand même, tu sens ce feeling, etc. Et puis quand ça passe dans cette sphère intime du lit, etc. Enfin... Il y a quelque chose qui se casse comme ça, et t'es là, c'était pas si. Ouais. Du coup, je dirais, là, c'est oui et non.
Tu veux dire que le lit pourrait être même une étape pour savoir si la personne te plaît ou pas?
Oui, je trouve. Parce que, moi, j'ai déjà rencontré un mec et. voilà, trop bon feeling. Je me sens hyper à l'aise. Dès la première fois, on se raconte plein de trucs, on est hyper à l'aise, etc. Et tout ça. Mais, voilà, quand on est dans cette sphère intime, c'est cool, mais je suis pas si à l'aise que ça, bizarrement. Et je sais pas c'est dû à quoi, du coup. Enfin, il faut qu'on passe plus de temps ensemble. Et même si on passe plus de temps ensemble, ben, je sais pas. Enfin, peut-être que. Enfin, il y a pas. Enfin, les corps ne se rencontrent pas. Enfin, je sais pas, c'est bizarre. Parce que t'es là, oh là là, tu parles et tout ça. Et puis après, enfin. Il y a un truc qui passe pas comme ça.
Et est-ce que tu remarques une différence entre faire venir quelqu'un dans ton lit ou toi aller dans le lit de quelqu'un d'autre ?
Mmh. Ouais. Enfin, dans ton lit, c'est plus ton territoire. Du coup, tu le connais, entre guillemets, alors que dans le lit de quelqu'un d'autre, t'es un peu plus... tu vois, tu te fais un peu plus tout petit, tu vois.
Tu te caches.
Ouais, un peu. T'es là. Ouais, ça dépend aussi. Enfin, ouais. Non, je dirais que ouais, dans le lit de quelqu'un, je suis plus à l'aise dans le mien en tout cas, quoi. En même temps, enfin, ouais. Je suis pas non plus. J'ai pas de copain attitré. Donc, je passe. Il y a pas le lit de quelqu'un d'autre m'appartient pas encore pour que je sois à l'aise dedans, mais voilà.
Est-ce que tu as le sommeil agité?
Je dirais oui, enfin parce que j'aime bien quand qu'il y ait vraiment un noir total et j'ai un sommeil très léger, donc s'il y a un truc, je peux vite me réveiller, quoi. Un bruit. Hein. Donc, je dors bien quand je suis seule chez moi, ou aussi seule dans mon lit, quoi. Du coup. Mais ouais.
Qu'est-ce qu'il y a autour de ton lit ?
Il y a ma commode avec mes livres dessus. Et puis ma table. Ouais, j'ai un genre de commode comme ça. Enfin, c'est une table ronde et là je mets ma petite lampe et c'est là où je pose mon thé du coup. Et l'autre commode qui est un peu plus haute et je mets mes livres dessus. Et vu que mon lit il est collé au mur, ben j'ai que là où je mets mes trucs.
Tu te sens en sécurité ou à l'affût dans ton lit?
Je me sens en sécurité parce que c'est comme quand t'es un peu enfant et que tu crois t'as peur du noir et puis dès que tu mets ta couverture tu crois que t'es protégé, ben il y a ce côté un peu où quand t'as pas envie ou que t'es mal tu vas toujours dans ton lit en mode c'est un genre de refuge, d'endroit où t'es là, bon. Je vais pouvoir me laisser aller, en fait. Ouais.
Est-ce qu'il t'arrive de pleurer dans ton lit?
Ouais. Oui. Ouais.
Est-ce que la chambre dans laquelle tu dors est verrouillée?
Non. J'ai une porte coulissante. Du coup, elle n'est pas verrouillée.
Quand tu n'es pas dans ta chambre, la porte de ta chambre, elle reste ouverte ou fermée ?
C'est un peu si difficile parce que du coup, je me suis fait cambrioler. Mmh. Et du coup, ma chambre en elle-même, pendant un long moment, c'était vraiment. Je me sentais pas en sécurité, quoi. Mmh. Du coup, c'était vraiment. Ce seul endroit où tu dois, où il y a ton intimité, il est un peu volé. Du coup, c'était très compliqué de me sentir
à nouveau chez toi.
Ouais, à nouveau chez moi. Donc là, voilà, j'essaie d'arrêter. Parce qu'après, j'ai eu des petits enfin des petites des comportements un peu post-traumatiques comme ça où je dois cacher certaines choses ou quand je sortais de chez moi j'étais là j'ai toujours l'impression qu'il y a quelqu'un qui va entrer enfin c'était ouais c'était vraiment j'étais là bon où est-ce que je peux me sentir en sécurité ouais mais maintenant ça va. Ça va, je me dis pas là, j'ai pas cette idée en tête que quand je vais rentrer chez moi, il y a un truc qui va disparaître. Mmh. Mais il y a quand même toujours un.
Ce truc. Tu vis seul ?
En colocation. Enfin, on est juste deux. Ouais.
Est-ce que la personne avec qui tu vis est aussi une personne racisée ?
Oui.
Est-ce que c'était important pour toi de vivre avec une personne racisée ?
Je dirais oui, quand même, et non à la fois. Du coup, pour pas être, c'est parce que je suis tombée dessus et que voilà, mais j'étais là, ah ben si je dois choisir, ben je préférerais plutôt ce choix-là que quelqu'un d'autre parce que aussi avant ça j'ai vécu 2 ans avec dans une colocation et on était tous racisés et il y a quelque chose qui se passe quoi enfin je trouve quand il y a ce genre il y a des choses on se enfin comment dire il y a des choses qu'on sait enfin donc
on se reconnaît
ouais qu'on se reconnaît donc c'est plus simple, c'est plus cool et t'as plus cette impression de. Enfin. Un peu de famille aussi, donc. Ouais.
T'as grandi dans une famille où tous les membres de la famille étaient racisés ?
Ouais. Oui.
Du même groupe racial que le tien ?
Ouais.
Où est-ce que tu as grandi ?
J'ai grandi à Kinshasa, jusqu'à mes 8 ans. Et je suis arrivée en Belgique l'été de mes 8 ans. Donc, ouais.
Est-ce que tu dirais que tu as manqué de référents ? Et de référence racisée dans ton développement.
Ouais, totalement, quoi. Franchement, totalement. Et c'est un peu aussi de ça que j'essaie de parler dans mon travail. Enfin, c'est plus sur ma propre identité. Parce que du coup, quand je suis arrivée en Belgique, c'est vraiment la première fois que j'ai compris que j'étais noire, quoi. Parce qu'avant ça, c'est comme si je ne m'étais jamais regardée, quoi. Enfin, voilà, bizarrement, c'est en allant à l'école avec tous les autres enfants et on est là, tu vois, les petites plaisanteries étaient là, mais. Je savais pas. Je savais pas que. Voilà, et même ce truc d'apprendre l'histoire de mon corps, du corps noir, et enfin. Et tout ça, c'est des trucs que j'ai pas su directement. Et c'est peut-être de moi-même, à l'âge de 15-16 ans. Au fur et à mesure, tu développes ton esprit critique. Et il y a des choses que tu apprends et tu es là, mais c'est bizarre. Et du coup, tu vas un peu te renseigner toi-même. Mais jamais les références ou quoi ont été données, venues à toi comme ça, en mode « Ah tiens, c'était toi-même une recherche, mais bon ». Maintenant, je suis plus adulte, il y a d'autres choses qui se sont passées, donc il y a plus de références qui tombent comme ça, mais c'est clair que pas du tout. Et vu que j'étais, je fais des secondaires en art plastique et tout le reste de mes études, il n'y avait vraiment pas du tout de références, quoi. Il n'y avait aucune. Il n'y avait pas de référence, quoi. Et je me disais, ah, mais, quand tu tapais, art africain sur Google, t'as que des trucs un peu, tu vois, qu'on a déjà vu et revu. Et j'étais là, il n'y a pas, d'artistes noirs contemporains qui, enfin, du coup, il y avait vraiment rien. Et c'est vraiment en allant en supérieur, et c'est peut-être même pas, enfin, et pas aux Beaux-Arts non plus, c'est vraiment à l'art qu'il y a eu un peu plus de piment, d'autres choses, quoi. Mais sinon, c'était très pas grand.
Blanc.
Ouais. Ouais. Du coup, ouais.
Est-ce que tu cherches à travailler avec des personnes racisées?
Enfin, je dirais oui et non, parce que d'un autre côté, enfin, avec dans l'environnement dans lequel j'ai grandi, enfin, il y a eu tellement un mix de choses qu'au final, je me suis retrouvée à avoir plein d'amis racisés sans forcément le faire exprès, aussi plein d'amis blancs et belges, et je pense que, enfin, je crois que c'est important d'avoir, voilà, d'avoir un réseau et de créer des choses avec des personnes racisées et entre nous, etc. Mais j'ai pas envie d'être dans un schéma, enfin, dans quelque chose qui peut être, qui va encore exclure d'autres personnes. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Et enfin, je me dis, si cette personne est capable de, enfin. Si j'ai envie de faire un projet et qu'il me faut, je sais pas, quelqu'un qui sait faire ça, ben, si cette personne sait bien le faire, ben, je sais pas, ça va au-delà de la. Mais je crois que quand même, enfin, je sais pas comment dire. Si je peux aider quelqu'un de ma communauté et qui sait faire ce que l'autre sait faire, ben, je le ferai d'office, tu vois. Mm-hmm. Et ça, c'est sûr, parce que, enfin, c'est pas comme si on avait des
occasions, multiples.
Des occasions de pouvoir le faire, donc enfin, ça, je trouve ça super important. Et mais enfin, si par exemple enfin, la personne racisée, même si elle est racisée, le fait et qu'elle le fait un peu de manière éclatée et que l'autre le fait de manière enfin carrée, ben il faut aussi voir de quoi on se mêle, parce que c'est des expériences que j'ai déjà eues, par exemple, donc voilà. Donc
tu dirais que ça dépend de quels critères?
Je dirais, juste que, enfin, comment dire, je favoriserais, valoriserais toujours ma communauté, mais, enfin, dans notre propre communauté, il y a aussi des divergences, il y a aussi des problèmes et des choses, enfin, ou des gens où tu n'es peut-être pas sur la même longueur d'onde, et ça, enfin, je l'ai aussi vécu avec le collectif que j'avais avec, enfin, et on était tous des étudiants afro-descendants et en école d'art, et c'est super bien passé, enfin, dans la continuité, mais d'office, il y a aussi ces problématiques, donc la misogynie, enfin, tu vois, ça reste toujours, qu'on soit noir ou pas, ben, il y aura toujours aussi des problèmes entre nous, donc, enfin. Donc même si on supporte, enfin, il y a pas, enfin, tu vois, c'est si utopique de se dire, ouais, enfin, je sais pas comment dire, c'est pas pour, enfin, je sais pas comment dire,
ouais, très, très bien.
Ouais, voilà.
T'es bien installée?
Ouais.
T'es trop froid?
Non, là ça va.
Ouais.
Ouais.
Okay. Parce qu'il y a toujours la possibilité de se foutre sous les draps.
Hein. Ouais, mais j'ai 3 couches de pull pour ici, donc.
Okay. Est-ce que tu veux bien parler du rapport que tu entretiens avec le Congo?
Oui. Ben, j'entretiens. Ben, je dirais que. Enfin. C'est un rapport très. Il y a beaucoup d'amour. Enfin, c'est parce que je dirais que c'est. Enfin, c'est, ça fait partie de moi, en fait, tout simplement. Mais ça. Il y a aussi un peu de la tristesse aussi, parce que. Du coup, enfin. Il y a cette. Il y a cette identité qui est, tu vois, qui est un peu éclatée, parce que. Du coup, je suis née là-bas et j'ai tous ces souvenirs, tout, enfin ma langue, etc. Et au fur et à mesure que j'ai grandi ici, il y a beaucoup de choses que j'ai perdues. Et voilà, je suis bruxelloise, etc. Mais je suis quand même congolaise, donc il y a un vide qui se crée quand même, parce que j'aimerais le fait de ne pas pouvoir m'exprimer simplement et fluidement dans ma propre langue, moi c'est quelque chose qui me frustre beaucoup, quoi, parce que je me sens pas complètement entière. Et je sais pas, c'est ouais. Enfin voilà, on est. Enfin, c'est comme si tu cherchais voilà, ta maison, quoi. Genre. Voilà, au final, je sais que même quand j'y suis retournée, j'étais pas. J'étais une Européenne, une Congolaise, mais qui vit en Europe. Donc je suis pas vraiment Congolaise. Et ici, je ne serai jamais belge complètement. Donc c'est vraiment. Voilà, on est
tiraillé.
On est tiraillé, on est un peu. Ouais, je trouve que c'est. Ça crée un vide, quoi. Parce que d'un autre côté, on te renvoie tout le temps à cette identité et t'es là, mais. Enfin, il y a plein de choses qui sont. Il y a plein de conflits intérieurs comme ça et. Voilà, je me dis. Je sais qu'il n'y aura pas de. Je sais que je ne pourrai pas retourner à la maison et que. Enfin, et ce sera. Voilà, c'est se rêver de. Enfin, que cette maison, il faut la construire un peu d'une manière un peu. Voilà, en essayant de retrouver ce que. Retrouver des petites choses, quoi. Enfin. Ce que j'essaie de faire, en tout cas, voilà. Donc, on compte à un peu à essayer de plus, apprendre plus de vocabulaire, à essayer de regarder des trucs en lingala, du coup, pour que ça m'aide à me rappeler des choses, etc. Mais même quand je rencontre des Congolais ou quoi, et quand ils me demandent de parler lingala, j'ai un blocage comme ça et c'est horrible parce que je comprends pas, tu vois, et c'est comme si les mots ne pouvaient pas sortir, je sais pas, c'est trop, je sais pas comment ça se fait en fait. Et je me souviens aussi quand je suis arrivée ici, j'avais du mal, je sais pas si c'était. Enfin, je trouve qu'il y a quand même une violence dans cette, dans l'immigration, dans même cette intégration. Enfin, parce que, tu te retrouves à l'école avec d'autres enfants et je parlais déjà le français en soi avec Kinshasa, mais pas tout le temps comme ça couramment. Donc là aussi, j'avais la voix, j'arrivais pas à m'exprimer. Du coup, c'est comme si, tellement des chocs violents que tu n'arrivais plus à mettre des mots, et que tout est dans ta tête, mais rien ne peut sortir. Je sais pas, c'est étrange. J'essaie de régler ça. voilà.
C'est comme un choc physiologique aussi. Tu connais les mots, mais. Mais ça ne sort pas de ton corps.
Ouais, voilà.
Comme si tu n'avais plus la voix, quoi, pour le faire.
Ouais, exactement ça.
Et du coup, tu essayes d'apprendre toute seule, d'enrichir ton vocabulaire en lingala seule.
En vrai, j'ai. Je pourrais écouter la conversation de deux personnes et comprendre parce que j'ai beaucoup de vocabulaire que je comprends, etc.
Mais c'est pas ça le problème,
ouais,
en fait.
C'est pas ça le problème. Ouais. C'est vraiment comme si la voix que j'ai là pour parler français, ça peut pas être la même voix que j'ai. C'est comme si ça rappellerait. Comme s'il y avait une dissociation, peut-être de. de moi enfant et peut-être de la version de moi que j'aurais pu être si j'avais grandi à Kinshasa. Enfin, je sais pas, il y a tous ces... Enfin, j'arrive pas à trouver ma voix, en fait.
Et artistiquement, est-ce que tu es sur la route de ta voix artistique?
Oui. Enfin, bien sûr, c'était toujours dans des perpétuels doutes et remises en question, mais oui, on est... je pense que je suis sur quelque chose qui me correspond, donc... Voilà, je parle beaucoup... je fais de la vidéo et que j'écris, du coup, je parle de tous ces problèmes du langage, du coup, des mots et des... Enfin, qu'est-ce que disent les mots sur... comment... parce que c'est un peu notre premier rapport au monde, le langage, donc c'est quelque chose de super important. Et mon travail de vidéo, il a commencé un peu parce que quand je suis retournée à Kinshasa pour la première fois depuis que j'étais partie, j'ai rencontré mon grand-père paternel et c'était la première fois que je le rencontrais et je savais très bien que ça allait être aussi la dernière fois. Puisque il avait 96 ans et je ne savais pas quand est-ce que j'allais revenir. Et du coup, on s'est rencontrés, sauf que lui, il parlait ni lingala, ni le français, il parlait en un autre dialecte. Et du coup, on n'avait aucun. On ne pouvait pas se parler, mais il y avait quand même ces gestes, les regards, les mains, etc. Mais on ne pouvait pas. On pouvait pas se parler, quoi. Et je trouvais ça dingue parce que je savais que c'était la dernière, c'est la première et la dernière fois que je le verrais et que peut-être j'aurais voulu dire tant de choses et peut-être que lui aussi, mais que c'est des moments comme ça qui m'ont un peu ça m'a fortement marqué et après c'est comme si c'était un peu l'essence de ce que je suis, le nom que je porte, l'histoire, tout ça, et que je dois conserver ce quelque chose, quoi.
Que tu veux qu'on intervienne l'échange enregistré. Je peux couper l'enregistrement si tu veux.
Je sais pas, c'est comme ça va, mais je sais pas, à chaque fois que j'en parle, ça me fait toujours des émotions fortes.
On peut parler d'autre chose si tu veux. Est-ce que ça te fait du bien d'en parler?
Oui, ça me fait du bien d'en parler parce que il faut en parler, je trouve, parce que sinon c'est des trucs peut-être que tu renfermes en toi. Je pense que moi je les ai renfermés en moi depuis très très longtemps, donc maintenant que j'en parle, à chaque fois c'est comme si il y a plein d'émotions, mais d'un autre côté ça soulage parce que tu dis les choses et ça sort de toi et ça fait du bien, quoi.
Tu veux un mouchoir?
Oui, je veux bien.
T'as des frères et sœurs?
Oui, j'ai deux frères, un grand frère et puis il y a moi, puis il y a ma sœur et mon petit frère. Du coup, on est quatre, deux filles, deux garçons.
Est-ce que vous parlez de votre rapport à chacun à la langue, particulièrement au lingala? entre vous?
Enfin, oui. On en parle. Enfin, moi, j'en parle un peu plus avec ma sœur, parce que du coup, on se fait les mêmes réflexions, parce que aussi, plus on grandit, chacun commence un peu à faire sa vie. Et on se disait, imaginons si nous, on a des enfants maintenant, qu'est-ce qu'ils peuvent savoir de leur origine, déjà que nous, on a un peu... on a perdu beaucoup, j'ai l'impression... C'est pas une critique, mais j'ai l'impression que souvent, certains parents... assisés quand ils arrivent ici. En fait, ils veulent tellement que leurs enfants s'intègrent, qu'ils donnent tout et qu'ils sont là en mode... qu'ils transmettent pas forcément... Même s'ils transmettent les petites choses, mais... pas tellement. C'est comme si, on va suivre la voie de cette intégration et, on parle français, Enfin, à part manger, tout ce que j'avais, peut-être de tomber là chez moi, c'était peut-être la musique et manger. Enfin, sinon, Les rites, les coutumes, c'était vraiment. J'aurais juste voulu savoir des choses, quoi. Et maintenant, c'est un peu à nous d'aller les chercher. Et, et j'ai l'impression qu'on se doit de le faire pour les générations d'après. Sinon, il y a plus. Qu'est-ce qui reste, en fait? Voilà.
Est-ce qu'il t'est déjà arrivé justement de aujourd'hui de poser des questions à tes parents par rapport à ce vide, quoi, ce manque de repères, de l'histoire familiale, prise dans la grande histoire du Congo et de son rapport avec la Belgique?
Oui et non, parce que j'ai des parents un peu il faut un peu aller les chercher pour qu'ils disent des choses, quoi. En tout cas, ma mère, elle est comme ça. Il faut vraiment que tu grattes pour qu'elle s'exprime. C'est une femme qui n'exprime pas ses émotions ni les choses, mais du coup, quand je lui dis je trouve ça un peu dommage qu'on sache pas bien parler et tout, elle est là, tu vois, tu peux toujours apprendre, et ils se responsabilisent de ça un peu, si moi je veux savoir quelque chose, je dois avoir une question précise et mais c'est pas en mode on va en parler pendant des heures et vraiment non. Non.
C'est quoi le rapport que tu as avec tes cheveux?
Je dirais j'ai un bon rapport avec mes cheveux, mais peut-être avant un peu moins. Mais franchement, là, je dirais que ça fait 4 ans que j'ai des bons rapports avec mes cheveux. Parce que avant, c'était si j'ai pas quelque chose dessus, c'est pas possible. Et après, j'ai coupé mes cheveux, je les ai laissés pousser, j'ai eu ma période un peu nappy, Et puis après, j'ai refait des tresses, et puis à un moment, j'ai remis une perruque. Maintenant je.
Tu joues avec.
Ouais, je joue avec, quoi. J'assume, je sais maintenant qu'est-ce qui va et qu'est-ce qui va pas. Enfin, ça a été vraiment dur, mais on est arrivé à trouver la bonne routine pour ça, quoi. Mais ouais. Et à les adapter, et à avoir. Ils sont comme ça parce que c'est ça.
Quelqu'un t'a appris à t'en occuper?
Non. Non, ça aussi, c'est par moi-même. Et je pense que même moi-même, j'ai appris à le faire à ma mère, peut-être. Parce que j'étais là dans une nouvelle. Je sais pas si c'était un train d'un moment, mais il y avait plus de tutos YouTube et tu étais là, ok, c'est comme ça que ça se passe. Et heureusement à tous ces tutos YouTube, parce que je crois qu'il y a des gens, ils n'étaient pas. On n'était pas forcément au courant de comment faire pour bien s'occuper de nos cheveux. J'avais l'impression qu'on devait juste... Enfin, ce truc de souffrir et c'est tout. Donc, ouais, du coup, grâce à ça, voilà, j'ai commencé... J'avais coupé mes cheveux, je les ai laissés pousser, je mettais des produits dessus. Et ma soeur m'a vu faire, du coup, elle aussi l'a fait. Et puis ma mère, elle était là, mais j'étais là... Enfin, vas-y, tu vois, du coup... Ça, même à elle, ça l'a appris à comment prendre soin de ses cheveux, quoi. Donc, c'est bien. Mais c'est, ouais.
Je reviens.
Ok.
Qui apprennent seules à s'occuper de leurs cheveux.
Ouais, c'est bien.
Le savoir qu'on devrait partager.
C'est quoi le rapport que tu entretiens avec la couleur de ta peau ?
J'entretiens un très bon rapport, ce qui n'a pas été le cas tout le temps, mais là je dirais que moi je suis épanouie en étant celle que je suis en fait, et vraiment, enfin,
comment tu l'as définie,
ma peau?
Oui.
Je dirais que c'est à la fois une armure, à la fois une armure, une force, un symbole, et un symbole et oui, une fierté.
Est-ce qu'elle a déjà joué contre toi ?
Ouais. Oui. Oui. Bah oui, ça joue. Ça peut. Ça a souvent pu jouer contre moi. Enfin voilà. À l'école, dans le bus, dans la rue,
Partout.
Ouais, partout en fait. Même là où tu t'y attends pas. Mais à force, en fait, je me dis, c'est une peau qui a tellement d'histoire, qui a tellement de vécu, en fait, et qui en a toujours. Et d'un côté, voilà, quand j'étais plus jeune, je pensais que c'était une symbolique que de souffrance et de quelque chose de négatif, en fait, parce que que ce soit dans les médias, dans les images qu'on nous montre, qu'on essaie tellement de nous dévaloriser au quotidien, que je suis là, mais waouh, c'est tellement intense que je pense que c'est plus parce qu'il y a quelque chose de tellement beau et de tellement magique là aussi, que ça m'a souvent joué des tours, mais moi je pense que maintenant ça fait plus quelque chose, ça m'a donné une force de une force, mais c'est dommage que qu'on en soit, que depuis que je suis petite je sais que c'est tu vas devoir un peu struggle avec ça, mais il faut rester fort, parce que même ma mère nous disait ça en mode et elle aussi, je pense que ça devait être dur pour elle d'arriver en tant qu'adulte dans un nouvel espace un nouveau pays comme ça, et d'être confrontée à tellement de choses, tu vois, et ne même pas avoir le temps de pouvoir s'assimiler petit à petit, mais d'être directement confronté à tout ça, à cette violence, à cette paperasse, à ces injustices. Et voilà, je trouve ça dommage que ouais, les petits enfants noirs doivent, dès l'enfance, savoir qu'ils doivent être forts, souffrir, enfin, tu vois. Mais bon, je me dis... il y aura... Enfin, je sais qu'il y aura une suite, enfin, une fin favorable, une suite favorable, je sais pas, mais les choses se font petit à petit. Et c'est bien. C'est bien. C'est dingue parce qu'après, parce qu'après tout ça, toutes ces réflexions, ces années, ben moi, même si j'ai déjà, je suis déjà sortie avec des hommes blancs, des hommes, tout ça, après tout ce qui s'est passé, toutes les réflexions que j'ai eues, j'étais là, à l'heure actuelle, c'est vraiment, je me vois plus, je sais pas, j'ai l'impression que quand je dis ça, je suis un peu en mode, il y a des gens qui sont un peu offusqués ou blessés, mais j'étais là, moi personnellement, je veux plus sortir avec un homme qui est non africain, je dis africain parce que c'est large, mais si je tombe sur quelqu'un et que c'est l'amour, c'est le coup de foudre, c'est que c'est ça et voilà, mais si j'ai le choix de choisir, je préfère être avec un Africain parce que il y a des parce que déjà j'ai envie de il y a des choses que t'as plus envie d'expliquer, t'as plus envie de justifier, et aussi j'ai besoin de se sentir de directement comprise en fait un peu et ça moi je peux plus faire des grands discours où j'explique des choses à un gars parce que vraiment je peux plus je peux pas éduquer les gens là. C'est ouais. Et du coup aussi c'est bizarre parce que t'as ce rapport est-ce que je suis juste un objet de fétiche de fétiche et ouais. Et souvent, même si... Du coup, c'est très bizarre, ouais. Désolée, j'ai discrète.
Non, écoute, on pourrait voir que tu as lu dans mon petit carnet. Je me pose souvent la question de savoir si c'est un choix ou pas. Personnellement, je n'ai jamais eu de rapport sexuel avec une personne du même groupe racial que le mien. J'ai jamais fait l'amour avec une personne noire. Et donc, c'est vrai que je propose de retourner la question. Et aussi, par rapport à d'autres groupes raciaux, quoi. Est-ce que tu as déjà fait l'amour avec des personnes racisées qui ne sont pas noires, donc arabes, asiatiques, latines?
Oui. Est-ce que je la précise, c'est l'origine?
Non, t'es pas obligée. T'es pas obligée, mais je veux dire, est-ce que dans ces cas-là, tu as la sensation que tu dois aussi faire de la pédagogie, expliquer ou est-ce que là, t'es aussi dans l'économie de cette pédagogie, ou est-ce que tu te retrouves encore face à une hypersexualisation de ton corps, exotisation?
Je dirais, en tout cas de mon expérience, je suis plus dans une économie d'éducation, parce que il y a toujours, parce que malgré tout, je sais pas si c'est comment dire, parce que les histoires elles sont un peu plus similaires, on va dire. Du coup, même si on est de différents, enfin rien à voir, enfin tu vois, parce qu'on est africain ou quoi, quoi. Enfin, parfois il y a rien à voir du tout dans les manières de gérer ces choses, mais enfin, mais il y a plus un, on se comprend de cette de ces indifférences, de ces inégalités, enfin il y a des choses voilà qui sont plus enfin ça veut pas dire que voilà quand t'es avec un gars je parle de mes inégalités, de tout ce que je subis au quotidien, mais c'est juste c'est plus fluide en fait, enfin voilà, je lui racontais un truc de ma famille, ben ça sera pas oh comment ça fait, tu vois, enfin c'est bon quoi. Je sais pas.
Moi, ça ne me choque pas parce que je sais que tu avais cette appréhension-là.
Ouais.
Ce sont des amis à toi qui sont choqués par ce choix. Ou c'est plutôt des personnes dont tu te moques complètement. La vie t'importe peu.
Ouais, ben parfois, enfin, parce qu'ils peuvent ressentir un peu l'incompréhension en mode. Enfin voilà, avant tu t'en foutais de ça et là pourquoi tu vas faire une catégorisation en mode non c'est que ça ou rien. Je suis pas du tout dans c'est que ça ou rien, c'est plus en mode si je peux choisir, ben je choisis ça que mais voilà, je laisse le hasard, les choses, les énergies, tout ça, faire les choses, mais il y a d'autres amis à moi qui peuvent me comprendre parce que enfin ceci parce que c'est peut-être des personnes racisées et que on sait que voilà il y a des choses qui enfin comment dire, il y a une amie qui peut très bien me comprendre parce que voilà elle va se dire voilà moi enfin je sais pas, elle en tant que marocaine musulmane etc, ben elle préfère choisir avec sortir avec un marocain musulman. Et peut-être.
Et c'est son choix.
Et c'est son choix parce qu'elle trouve que c'est beaucoup plus. Enfin, pour elle, elle va même pas tester autre chose parce que. Enfin, pour elle, c'est plus simple, plus logique parce que voilà, elle dit voilà, pour l'éducation de mes enfants, ça sera plus logique d'avoir ça, 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 ça. Et que par exemple, enfin. Je sais pas. En soi, je cite pas des noms, donc. Enfin, par exemple. Ses soeurs qui sortiraient avec un belge et qui serait là, ah ben c'est cool, ça c'est l'amour, c'est comme ça, ça c'est le hasard, ça nous tombe dessus, c'est le coup de foudre, mais voilà, au fur et à mesure ben t'as des trucs qui tu vois petit à petit qui voilà, et c'est des petits trucs qui ont peut-être rien à voir avec l'amour que vous portez, mais c'est plus des trucs du fait logique, du fait de ah, moi, c'est comme ça que chez moi on fait, ou moi, c'est comme ça chez moi qu'on fait. Et voilà quoi. Je pense qu'il y a des gens qui préparent juste éviter ce genre de tracas logistiques, enfin, même s'il y aura toujours des problèmes, mais être plutôt en mode bon, ça c'est. On est dans une base où ça c'est déjà clair, et voilà. Bon, c'est pas, ça dépend aussi de chacun, en vrai. Donc. En tout cas, voilà.
Est-ce que tu as déjà envisagé d'aller travailler ou de faire autre chose sur une longue durée au Congo ?
Ouais, là,
ou ailleurs en Afrique ?
Ouais, ben plus je grandis, plus ça me vient en tête, puisque déjà je me dis. Enfin, avec nous, la chance qu'on a d'être ici et de pouvoir acquérir tous ces savoirs, tous ces outils, tous ces moyens, etc. Ben, en Afrique ou dans certains pays, il y a encore plein de choses qui sont pas du tout faites. Donc, t'as vraiment, la possibilité de venir et dire ah ben, je peux faire ça parce que je sais qu'il y a pas ça ici et je suis pas dans une concurrence de beaucoup de choses où le secteur il est déjà bouché. Enfin. Je pense qu'il y a encore, c'est des pays ou c'est un continent où il y a encore moyen de faire beaucoup de choses et de pas, enfin, qui seraient différents, par exemple, d'un modèle, enfin, ça serait peut-être utopique, mais enfin, de rêver un truc un peu plus, je sais pas, pas forcément d'aller de construire des gros trucs, des machineries, mais enfin aller, je sais pas, je suis perdue dans ce que je voudrais dire, mais enfin, en tout cas, que c'est une terre fertile où tu peux faire pousser beaucoup de choses, beaucoup de projets, qu'il y a beaucoup de choses à faire et qu'en plus en ce moment ça devient vraiment il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de talent, il y a beaucoup de choses à voir. Enfin, du coup, je me dis, ben, quitte à faire, pourquoi juste rester voilà, dans ce froid, dans ce gris, dans ce métal. J'adore Bruxelles, c'est ma ville, etc. Mais enfin, pourquoi pas juste aller voir ailleurs et puis merde, si tu te casses la gueule, c'est pas grave, mais vivre cette expérience et voir. Enfin, ouais, moi, plus. Plus je grandis, plus je me dis je serais chaud quoi. Enfin, un peu de s'il y a un moyen de faire quelque chose là-bas et de pouvoir voilà avoir une autre un autre confort de vie, je sais pas, une autre manière de vivre en fait, sans ce truc de enfin je sais pas, une autre manière de voir les. J'aimerais bien, en tout cas, de pouvoir y retourner là, maintenant, à l'âge adulte, et de me dire, ah, est-ce que je peux... Vraiment, c'est... Ouais, petit à petit, ça me chauffe bien. Je sais pas pour faire quoi et comment, mais... Il faudrait aussi que j'apprenne à parler, enfin, que ma voix sorte d'ici là, mais... Voilà. J'aimerais bien, en tout cas.
Est-ce que tu veux goûter le gingembre ?
Ah ouais, je veux bien.
Et enfin, je sais pas si c'est trop indiscret, mais c'est vrai que j'ai déjà eu cette conversation avec des copines à moi et on est toutes noires, enfin. Etc. Et elle aussi, elle me disait, ben moi j'ai jamais eu quoi que ce soit avec un autre homme noir parce que pour moi, je sais pas, c'est trop. Soit elle était là, ouais, pour moi c'est trop genre mon frère, ou enfin je sais pas, j'ai jamais eu ce truc là où ça m'est jamais venu à l'idée, où je me suis jamais sentie, enfin, ou qu'elles ont, enfin, vu qu'elles sont aussi en école d'art comme moi, ben c'est des milieux où il y a. Enfin, généralement des milieux blancs, du coup, enfin voilà, on sort avec ce qu'il y a autour de nous, donc voilà, du coup c'était toutes ces questions, c'est marrant. Et je sais pas si toi c'est parce que t'es pas tombé dessus ou que ça t'a jamais traversé l'esprit ou que t'étais aussi dans ce truc, hein, c'est, je sais pas, c'est mon frère. Je sais pas.
Alors ce que je vais te dire va peut-être te choquer, hein, mais J'ai jamais fait l'amour avec un homme noir parce que je pense que j'ai longtemps été raciste envers les hommes noirs.
Ah ouais.
Parce que il me faisait peur en fait. Il me faisait peur parce que j'ai vraiment grandi dans un univers majoritairement blanc à la campagne. Et les représentations que j'avais des hommes noirs, que ce soit dans les médias ou dans les arts, étaient souvent des représentations péjoratives, agressives, violentes. Et comme en plus ça ne s'est pas présenté, ça, j'ai entretenu le fait de ne jamais sortir avec des personnes noires, mais sans même m'en rendre compte. En fait.
Ouais.
J'étais dans le déni complet en fait, du process qui était en train de m'arriver. Et aujourd'hui, j'arrive à en parler, mais c'est encore timide parce que j'ai vraiment l'impression que c'est l'expression du racisme même, tu vois. Et c'était aussi parce que ça, c'est le deuxième volet. Je pense que sortir avec une personne noire, c'était accepter que j'étais moi-même noire. Et comme je l'ai longtemps refusée, mm-hmm. cette couleur,
ouais.
qui est brune, mm-hmm. et bien, ouais, c'était une manière de tenir cette partie mm-hmm. inconnue de ma personne à distance.
Ouais.
Parce que moi, je suis une personne adoptée. Mmh, et ouais. donc j'ai jamais grandi avec des référents je veux dire physiques dans la même maison que moi noire, à part avec ma sœur. J'ai une sœur qui a été adoptée aussi, elle vient de Haïti et moi je viens de Djibouti, mais je suis d'origine éthiopienne, mais c'était encore différent parce que déjà c'était une femme et, donc je crois que cette question-là, on peut la prendre de me concernant. Mm-hmm. Il y a différentes portes d'entrée pour y répondre. Et voilà, là, je te fais un petit aperçu. Non,
ouais. Vraiment, c'est super intéressant, en fait. C'est vrai que moi aussi, pendant une longue période, je crois que j'ai commencé à sortir avec des hommes noirs qu'il y a 2 ans, je crois. Aussi dans, peut-être aussi parce que dans ma tête, le fait d'être valorisé par un homme blanc, c'est comme si ça me valorisait aussi en un plus un, tu vois.
Ah ouais, je comprends.
Alors que pas forcément. Et c'est des trucs, c'est des.
Moi, je pense que ça s'appelle l'assimilation, quoi. Mm-hmm. Que c'est une manière, en fait, de. Pour ma part, ça a été ça. C'est le troisième argument que j'aurais pu avancer parce que je me reconnais pleinement là-dedans. C'est-à-dire que sortir uniquement avec des personnes blanches, c'est une manière d'être acceptée dans la société dans laquelle je vis.
Ouais.
Mais en fait, je me rends compte aujourd'hui que c'est pas tellement par rapport au regard des autres, mais c'est aussi mon propre regard. Ça fait plus mal, en fait. De sentir mes propres biais racistes, mais. Et c'est là que tu te dis que c'est une culture, en fait, raciste.
Ouais.
On fabrique des personnes racistes et des comportements racistes. Des phénomènes, quoi. C'est triste. Ça est jusque dans l'intimité, en fait, de la sexualité. De refuser telle ou telle personne pour sa couleur de peau, je me sens tellement honteuse. Et donc avant tu sortais qu'avec des hommes blancs, mais ou peut-être aussi avec des asiatiques et des latinos ou...
C'était plutôt
moi en fait c'était avec aucune, c'était exclusivement des personnes noires, blanches pardon, mais par contre j'ai toujours bien aimé les métis, c'est comme si c'était une catégorie à part, métis latino ou métis métis noir, mais j'ai aussi j'aime aussi les types méditerranéens, iranien, grec. En fait, en vrai, si je me questionne sur mes goûts, j'en ai plein, quoi.
Moi aussi, pareil.
Très très séduite par une personne arabe, enfin je sais pas, c'est une histoire de traits, c'est une histoire de
regard,
complètement, mais particulièrement avec les personnes noires, je m'empêchais d'être séduite, et c'était moins le cas avec des arabes, des latinos, et il y avait du colorisme, en fait c'était, il fallait quand même qu'il soit clair,
je vois,
clair de peau, ça pour moi c'est un aveu aussi de racisme, et, mais j'ai pas inventé ça toute seule,
non
c'est j'ai pas créé ça,
c'est des choses qui qui s'imprègne en toi, quoi. Moi aussi. Et ouais, il y avait beaucoup de... En plus, en tant que femme noire, on est un peu déjà dévalorisée dans le sens des canons de beauté. Vraiment, on touche le sol. Enfin, le truc basique. Et du coup, déjà, quand t'as pas cette représentation positive, personne ne te donne pas forcément envie de... cette personne blanche qui te donne ah waouh t'es belle et tout ça, t'es là ah là je suis vraiment belle parce que lui me l'a dit et qui m'a valorisée en tant que moi c'était plutôt ça et...
Moi j'ai un peu honte de ça parce que je me dis mais j'ai pas été suffisamment fine pour j'avais pas suffisamment confiance en moi en fait pour me rendre compte que c'était pas ça le problème, en fait c'est que j'avais envie que tout le monde m'accepte quoi, et croire que ça allait passer par le regard d'un seul homme, mais bon voilà c'est un chemin,
c'est un long chemin.
Aussi, quand je me faisais draguer, ou harceler plutôt, harceler dans la rue par certaines personnes, je me rendais compte que, et je pense qu'il y a trop de personnes qui font des amalgames comme ça, mais je me rendais compte que j'étais plus virulente avec des personnes noires dans ma réponse, et aujourd'hui c'est plus du tout le cas. Je suis beaucoup plus cool en fait. Je sais pas, je suis plus. De toute façon, un harceleur, c'est un harceleur, tu vois, mais je veux dire, je sens que je vais pas répondre de la même manière. Ça va dépendre de la situation, vraiment. Genre, ce sera pas le champ racial qui va déterminer ma réponse. Là, ce sera la situation. Je sais pas si c'est vrai en plus. Hein. Je te dis ça. Ça m'énerve en fait quand j'entends quand je vois des reportages ou même des films qui stigmatisent les personnes noires, ça me fatigue en fait.
J'étais là, mais... Allez, quoi. Allez.
Est-ce que ça va toujours?
Ah oui, ça va, toujours. Là, je suis plus détendue qu'au début.
Ouais.
Mais du coup, je sais pas... C'est jusqu'à combien de temps?
Ah, mais ça peut s'arrêter quand tu veux.
Ah, ok. Parce que...
Tu dois partir.
J'ai laissé mon ami par le mur depuis... Je sais pas si ça fait longtemps.
Attends,
que je suis partie.
Attends, tu l'as laissé où?
Enfin, non, il est à l'atelier, mais... Enfin, du coup, on est...
Tu veux que je regarde là?
Ah oui, je veux bien.
Il est 18h45.
Ah oui.
On arrête?
Je vais encore vous dire que c'était...
Écoute, merci.
Ben, merci toi, c'était chouette et moi j'aime beaucoup avoir ce genre de discussion avec des filles aussi racisées parce qu'il y a des trucs, même si c'est tout con, de penser à ça et de le dire et de se dire ah ben je peux te comprendre, ça fait du bien, tu vois, et t'es là, ah ben c'est... J'aime beaucoup, je crois qu'il devrait avoir plus de trucs comme ça, même surtout pour les plus jeunes que nous, parce que je sais pas, je pense que c'est toujours les mêmes situations au final, et ce serait bien qu'on n'ait pas à attendre d'avoir un certain âge pour se commencer, qu'elles puissent avoir déjà des clés, tu vois, pour gérer leur corporalité, leur rapport à elles-mêmes en tant que femme, en tant que tout ça. Et ouais, bon, moi je suis toujours sur le chemin, enfin petit à petit, mais voilà. Non, mais du coup, ouais, c'était vraiment cool.
Bah, merci. Je suis ravie que ça t'ait plu et surtout qu'on ait pu échanger des expériences, quoi.
Mm-hmm. Ouais.
Bon, bah, je te retiens pas plus longtemps. Hein.